إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Donc nous nous sommes arrêtés à l'explication du premier hadith de ce recueil du grand savant, le cheikh, le docteur Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidhahullahu ta'ala. Donc le premier hadith, c'est le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu prêcher l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a montré ce à quoi il doit appeler et par quoi il doit commencer avec des recommandations. Nous nous sommes arrêtés à Mawdou'u al-Hadith. Donc le cheikh, hafidhahullah, nous a parlé nous a cité qui a rapporté, qui sont les rapporteurs du hadith, nous a parlé du compagnon qui a rapporté le hadith, en l'occurrence ici c'était Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, et il a parlé de certains mots qu'on retrouve dans ce hadith, donc du vocabulaire. Mawdou' al-hadith, le sujet du hadith. Bayanu manhaji ad-da'wati ila Allah. C'est la clarification de la méthodologie, de la manière dont on doit appeler à Allah Azza wa Jal. Appeler Allah Azza wa Jal, c'est demander. Mais appeler Allah Azza wa Jal comporte des conditions, des règles à respecter. Ce n'est pas toute bonne intention qui rend l'œuvre acceptée et agréée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les œuvres ne sont acceptées que par une bonne intention, mais il faut aussi que l'œuvre soit accomplie sincèrement pour Allah Azza wa Jal et que l'œuvre soit en conformité avec la tradition du prophète, alayhi salatu wa salam. Il faut être bien intentionné, agir sincèrement pour Allah et comme Allah nous le demande. Donc le prêche ne se fait pas comme chacun bon lui semble ou lorsque la raison elle considère que telle manière elle est bonne ou pas. Dans le domaine religieux, c'est la conformité qu'on regarde. Est-ce que l'action est conforme ou pas? Et de là, on comprend la parole de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, lorsqu'il dit « Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana » Toute innovation religieuse est un égarement, même si les gens la voient bien. Et Ali, radiallahu anhu, ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le prince des croyants, le quatrième calife de l'islam, lorsqu'il nous dit لو كان الدين بالرأي لكان مسح الأسفل أولى من الأعلى أو كما قال رضي الله عنه Si la religion était basée sur le raisonnement, lorsqu'on essuie sur la chaussure, le chausson, la chaussette, il aurait été plus logique d'essuyer le bas et non pas le haut. Parce que vous savez comment on fait pour essuyer. Lorsque quelqu'un fait ses ablutions et qu'il est dans les conditions qui lui permettent d'essuyer les chaussettes ou les chaussons, il essuie quelle partie du pied ? Le haut. Mais le haut ne se salit pas, il ne touche pas le sol. C'est quoi qui touche le sol ? C'est le bas. Donc c'est la raison veut que normalement, si on doit nettoyer un des deux côtés, c'est lequel ? C'est le bas. Donc Ali radiallahu anhu, il dit, si la raison était basée sur la... Si la religion était basée sur la raison, il aurait été plus logique d'essuyer le bas. Mais c'est comme ça que j'ai vu le prophète faire. Le sujet, il est clos. Le prophète a dit, et il a fait, d'essuyer le haut de la chaussette ou du chausson. Donc le sujet, il est clos. Même si, si on vient réfléchir à suivre la logique, on ne comprend pas. Ce n'est pas toutes les questions religieuses, tu auras une réponse. Non. Il t'est demandé d'accomplir, de te soumettre, de te plier à l'ordre divin, à l'ordre prophétique. Si tu as pu comprendre, tant mieux pour toi. Tu n'as pas pu comprendre, rien ne change à la règle. Il y a une sagesse et en tant qu'être humain fini, d'accord, tout est fini chez toi et même la compréhension, même l'assimilation, hein, même la raison elle-même, elle est finie. Tout est fini dans la créature. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Il nous a été donné de science que très peu. Toute la science qu'Allah a donnée à l'humanité, c'est l'équivalent d'une aiguille trempée dans l'océan, puis enlevée, relevée. Vous avez vu la petite goutte d'eau qui va rester dans cette aiguille ? Voilà ce qui a été donné. C'est pour vous montrer ce qui nous échappe. Et c'est pour cela, plus les gens sont versés dans la science et plus ils reconnaissent leur ignorance. Et moins les gens connaissent et plus ils se croient vraiment quelque chose et connaître. Il n'y a qu'un ignorant pour croire qu'il a assimilé tout et il a tout compris. Mais les ulamas, les véritables ulamas, lorsqu'ils parlent, ils disent « Plus on avance et plus on reconnaît notre ignorance ». Moussa alayhi salam, c'est un prophète d'Allah, un messager d'Allah. On lui demande, qui est le plus savant ? Lui, il répond à la personne, c'est moi. Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, va vers tel endroit, il y aura un serviteur qui t'attend. Et ce serviteur, c'est le Khadr. Il y a une divergence entre les ulama, qu'est-ce qu'il est réellement ? Est-ce qu'il est prophète ou pas ? Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est qu'il est prophète. Donc il reçoit de la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ses agissements qu'il a fait, qu'on retrouve dans la sourate la caverne Al-Kahf, il le dit, je n'ai pas agi de moi-même, mais c'est Allah qui m'a ordonné. Il n'a fait qu'obéir aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est Allah qui lui donne les informations. Et Al-Khadr, c'est des choses que Moussa ne connaît pas. C'est un enseignement. Et il lui dit, Allah t'a enseigné des choses que je ne connais pas. Et il m'a enseigné des choses que tu ne connais pas. Et il t'a enseigné des choses que je ne connais pas. Naam. Donc, de là on comprend que des phrases qu'on entend par-ci par-là n'ont pas lieu d'être. Non, mais le frère, il est bien intentionné. Cette phrase, elle est bonne à dire quand ? Quand on remet en cause l'intention de la personne. Pas le mauvais agissement de la personne. Comprenez ? Si quelqu'un remet en cause l'intention d'une personne, on peut peut-être parler et essayer de montrer que la personne a agi avec une bonne intention. Mais pas lorsqu'on remet en cause la méthodologie. La bonne intention n'a pas, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est quoi? Est-ce que cette façon de faire est conforme, oui ou non? Est-ce qu'elle est légiférée, oui ou non? Et là, on fermera la porte à beaucoup de discussions inutiles et de polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est pour cela que souvent les gens n'arrivent pas à parler, à dialoguer, parce qu'à la base, ils ne sont pas d'accord sur le sujet lui-même. C'est l'incompréhension totale. L'un, il parle d'une chose, et en face de lui, il parle d'une autre chose. Ils ne peuvent pas se comprendre. Que dire si on y rajoute à ça, à cela, que chacun n'est pas prêt d'écouter l'autre, ne veut pas prêter oreille à l'autre, et ainsi de suite. Ça va que rajouter dans le problème. Mais souvent, les gens discutent, mais en réalité, l'un parle d'une chose et l'autre parle d'une autre chose. Donc déjà, c'est de bien cibler le sujet. Ça tue le hors-sujet. Combien de fois de gens discutent, ils rentrent dans un sujet, puis ils rentrent dans un autre sujet, puis ils rentrent dans un autre sujet, à la fin, ils ont ramené 5-10 sujets, ils n'en ont terminé aucun. Subhanallah. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment un dialogue doit être fait. Donc, de savoir exactement il est où le problème. Là, on parle de méthodologie, la manière. Jama'at al-tabligh. C'est quoi qui leur est reproché? On n'entre pas dans leur fort intérieur. Ce n'est pas notre domaine. C'est le domaine d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils sont sincères, ils ne sont pas sincères. Ils sont de bonne foi, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ont une bonne intention, ils n'ont pas une bonne intention. Ce n'est pas de notre ressort. Ça ne nous est pas demandé de rentrer dedans. Ce n'est pas le sujet. D'accord? La méthodologie, on ne regarde pas le résultat. Ça porte des fruits, ça ne porte pas des fruits. Ce n'est pas la question. C'est Allah qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Même tu t'y prends de la meilleure manière, si Allah ne guide pas la personne, elle ne sera pas guidée. Mais tu n'es pas jugé sur le résultat. Tu es jugé sur tes agissements, sur tes actes. Le résultat est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous croyez que vous êtes meilleur que les prophètes? Il y a des prophètes qui viendront yom al-qiyama, le jugement dernier, tout seul. Personne de leur peuple n'a voulu les écouter. C'est Allah qui guide. Et personne ne peut remettre en cause le prêche du prophète. Le prophète a agi comme Allah lui a ordonné. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est plus de son ressort le résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tout son possible pour que son oncle Abu Talib entre dans l'islam. Au final, il n'entre pas dans l'islam. Et il meurt dans la mécréance et le polythéisme. Et Allah lui révèle « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. » Tu ne guides pas qui tu aimes. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et on dit toujours, Man yahdihillahu, fala mudillalah, wa man yudlil, fala hadiyalah. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Donc, le résultat, les gens ont été guidés, n'ont pas été guidés, ce n'est pas ça qui va légitimer cette action. L'objectif, le but à atteindre, il doit être noble. Et le moyen de l'atteindre doit être noble. L'objectif doit être légiféré et le moyen pour l'atteindre doit être légiféré. Non pas comme certains ramènent des règles qui n'émanent pas des musulmans à la base en disant que la fin justifie les moyens. Tant que la fin elle est bonne, tous les moyens sont bons pour l'atteindre. A'udhu billah. Ça, ce n'est pas une règle islamique. Hein. Si des gens ont voulu l'introduire dans l'islam, l'islam en est innocent. Non seulement la fin, elle doit être noble, et le moyen de l'atteindre doit être aussi noble. Donc, on doit savoir. J'aime à t'établir. Un des grands problèmes, c'est quoi? C'est qu'ils s'autorisent, ils se permettent de prêcher. Donc c'est un moyen d'atteindre un objectif avec l'ignorance. Et ils considèrent parfois l'ignorance meilleure que beaucoup de science. Ils le disent. Peut-être pas devant tout le monde, mais c'est une conviction qui se partage chez des grands chez eux. Il n'y a pas beaucoup de bien dans beaucoup de sciences. Des phrases qu'ils sortent. L'imam al-Bukhari, il était bien au début. Mais quand il a mis tout son temps, son énergie dans le recueil de son sahih, il y en a qui lui ont fait le reproche qu'il a perdu son temps. Ça, ce sont des paroles qui se disent chez certains. A'udhu billah. Donc, il décourage les gens. Va, une lumière, elle va te venir. Lève-toi. Les paroles, elles vont venir toutes seules. Voilà l'enseignement qu'il donne. A'udhu billah. Donc, il prêche sans science. Alors qu'Allah nous demande de ne pas agir si on n'a pas connaissance. De ne pas parler ni faire une action sans connaissance. Et de ne prêcher que sur une clairvoyance, une science. Et que chacun reste à sa place. Les gens de la masse n'ont pas le droit de prendre le rôle des savants. Ce qui incombe aux savants, incombe aux savants. Ça n'incombe pas aux gens de la masse. Les gens de la masse, il leur est demandé de questionner les gens de science. Et les gens de science, il leur est demandé de clarifier, de démontrer, d'expliquer, d'enseigner et de répondre aux questions des gens de la masse. À chacun sa place. Et Cheikh Rabi Hafidhahullah, il y a à peu près une trentaine d'années, il a écrit un ouvrage à ce sujet pour répondre à l'erreur répandue chez tous ces mouvements plus ou moins islamiques, mais qui se font appeler islamiques et qui sont entrés dans le domaine de la da'wa, du prêche, d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les mouvements, il a appelé son ouvrage « Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah ». La méthodologie, la voie des prophètes dans l'appel à Allah. C'est un ouvrage grandiose et d'une très grande importance. À ne pas confondre avec un autre ouvrage qui porte le même titre, d'un égaré qui s'appelle Mohamed Surour, Zain al-Abidin. C'est de lui qu'on tire le nom Sururiya. C'est une des branches des frères musulmans. Il est encore vivant, c'est un vieux, il est en Angleterre. Je crois d'origine syrienne ou irakienne, qui était en Arabie il y a longtemps. Mohamed Surour, Zain al-Abidin, il a aussi un ouvrage qui comporte beaucoup d'erreurs. Il a appelé aussi son ouvrage « Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah » à ne pas confondre, même s'ils ont le même titre. « Al-ma'na al-ijmali lil-hadith » le sens global du hadith. « Yubayyinu al-hadith al-khutuwat al-wajiba allati yajibu an yaslukaha al-da'i ila Allah » Donc le hadith, il vient nous démontrer, nous clarifier les pas à entreprendre obligatoirement pour celui qui prêche à Allah. Les étapes obligatoires que doit entreprendre le prêcheur à Allah. فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ هو الدعوة إلى التوحيد. Donc, la première chose, le premier point auquel il doit appeler, inviter, c'est un acte obligatoire, c'est de prêcher, d'appeler, d'inviter au monothéisme. L'adoration d'Allah seul et l'unicité d'Allah seul qui n'a pas d'associé. Rien ne passe avant. C'est le premier point. Donc déjà là, un grand point d'interrogation. Toutes ces tendances et ces sectes qui existent sur le terrain, ont-ils cette priorité? Est-ce que l'objectif majeur chez eux, c'est d'appeler et d'inviter les gens au monothéisme? Les frères musulmans, ils ont dit non. Ils le disent clairement. Non. Le tawhid, c'est une question de 10 minutes, 5 minutes. Il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. Donc déjà, ils vous montrent la place du tawhid qu'ils ont, qu'il a chez eux. Ce n'est pas une question primordiale ni importante. Ce sont leurs paroles. Pas la parole de certains suiveurs. Non. Parce que les suiveurs, on pourrait dire que à la tête, ils sont innocents de ce que font certains suiveurs. Non, ce sont les maîtres, les fondateurs. D'accord ? L'élite de la tendance et du mouvement. Ça, c'est leur position. Le tawhid n'a pas une grande place. Et c'est pour cela que leurs suiveurs, leurs adeptes, le jour où Allah tabaraka wa ta'ala les sauve et ils quittent ce genre de mouvement, ils le disent. Tu parles de la ilaha illallah, il a passé 20 ans dans ce mouvement, il te dit c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Subhanallah, pendant 20 ans t'as fait quoi? Quel est cet islam auquel on t'a appelé? Jamais on m'a parlé du tawhid. Jamais on m'a parlé du danger du shirk. C'était pas une question aussi importante que ça chez eux. Alors que tous ils disent l'islam est bâti sur 5 piliers, comme dans le hadith. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors des traductions qu'on entend des fois, bon maintenant moins. Il n'est de Dieu que Dieu. Ça ne veut rien dire. Déjà le terme Dieu, qu'est-ce que vraiment il veut dire? Moi je ne sais pas, hein, je ne suis pas un connaisseur de la langue. Mais il y en a qui remettent en cause. Comme quoi Dieu, ne, c'est pas la divinité, c'est un autre sens. Allahu a'lam, je ne sais pas. Puis de dire qu'il n'y a de divinité que la divinité, qu'est-ce qu'une divinité? C'est un nom commun, c'est pas un nom propre. C'est celui qui est adoré. C'est ce qui est adoré, à qui on a voué un culte. Tayyib, dans ce monde, on parle que d'aujourd'hui. Pour ceux qui ignorent le passé et l'histoire, y a-t-il une seule divinité d'adorer ou plein de divinités adorées? Il y en a plein. Donc ça ne veut rien dire. Ce n'est pas l'explication de la ilaha illallah. Ce n'est pas sa traduction. Des divinités, il y en a plein. Mais elles sont toutes fausses. L'adoration qu'il leur est donnée, elle est vaine, caduque. Et il n'y a qu'une seule véritable divinité qui mérite l'adoration. Et cette divinité, c'est Allah. Le nom propre de cette divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, ils disent, le tawhid, c'est après. Ça, c'est chez les frères musulmans aussi. Le tawhid, c'est après. D'abord, on ramasse les gens. On réunit les gens. Une fois qu'on est tous regroupés, à ce moment-là, on parlera du tawhid. Non seulement cette phrase, elle est fausse, mais que dire que c'est un leurre? C'est pas vrai. Si le tawhid avait une place, il l'aurait déjà mis en application. Mais c'est seulement pour faire taire des gens qui viendraient leur faire la remarque. Subhanallah. Tablir, ils disent, on ne rentre pas dans les sujets qui divisent. On ne parle que de sujets dont tout le monde est d'accord. Personne ne remettra en cause. C'est pour ça, ils disent, nous lisons Riyad Salihin. C'est un très bon livre, Riyad Salihin. La majorité des hadiths, ils sont authentiques dans Riyad Salihin. Qu'Allah fasse clémence à l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Et certains ulama disent que le fait qu'il a des ouvrages qui sont entrés pratiquement dans toutes les demeures et qu'Allah a fait accepter ses livres chez les gens, c'est un des signes qu'il a été sincère lorsqu'il a écrit ses livres. Rahimahullah. Tayyib. Très bon livre. Mais ne vous attendez pas qu'il vous lise le livre du début à la fin. Non. Ce sont des choix de hadith. Ils choisissent que les hadiths qui parlent des mérites des œuvres. Les bienfaits de faire telle action. Les bienfaits de faire des nafila. Le bienfait de faire de jeûner. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle fada'il al-a'mal. Fada'il al-a'mal. Les mérites, les bienfaits des œuvres. Ils n'entrent que dans des sujets comme ça. C'est tout. Le reste, non, ils rentrent pas dedans. Ils n'entrent pas dedans. Et ça, c'est une règle chez eux. Et ils pensent que c'est une règle d'or. Ils pensent qu'ils ont trouvé un moyen de réunir les musulmans. C'est de quoi ? De « on ne rentre pas dans les sujets qui fâchent ». Mais une fois qu'ils sont entre des gens qui sont en plein dans le mouvement, ça y est, le mouvement, il circule comme le sang. Alors là, ils se permettent de se dire entre eux des choses qu'ils ne diront pas aux gens qui ne sont pas encore en plein dans le mouvement. Et c'est là qu'on retrouve le shirk, le polythéisme, et on retrouve l'allégeance faite aux sectes soufis, comme leur fondateur l'avait, pas une seule, mais à plusieurs sectes soufis, et les tombes, et ainsi de suite, et les do'as dans lesquels il y a du shirk, et ainsi de suite. De même chez les frères musulmans. Mais ils ne peuvent pas dire des choses comme ça, tout va devant tout le monde, ouvertement, de peur de perdre le public. Et c'est pour cela que des fois, vous allez parler à des gens en essayant de leur montrer que ce n'est pas bon tel mouvement il y a. Lui, il est sincère dans ce qu'il va te dire. Mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu ça chez eux. Je n'ai jamais entendu ces choses-là. Subhanallah. Parce qu'à ce stade-là, ils ne te le montreront pas. Eh naam. Donc, هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة والابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره. Donc, c'est la première chose, le premier point, l'appel au monothéisme, l'unicité d'Allah seul et l'unique dans l'adoration et l'éloignement total de toute forme de polythéisme, qu'il soit petit ou grand. Quel que soit le degré de ce polythéisme, tu t'en éloignes. وذلك يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Et ceci, on l'atteint par la profession de foi, l'attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, quand on va vérifier clairement, avec clairvoyance, c'est le travail des ulama, des savants qui ont le bagage, la capacité de pouvoir faire ce travail, de discerner, de distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux, la vérité du mensonge. On voit que ces mouvements ont des problèmes avec la ilaha illallah et ont des problèmes avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, un bon frère musulman de ce mouvement, je parle beaucoup d'eux parce qu'ils font beaucoup de mal, et ils sont un poison dans la communauté et ils ont été la cause de beaucoup de dégâts, d'où l'importance d'en parler. Et en plus, ils font le caméléon. Ils essaient de s'adapter jusqu'au jour où ils se sentent capables de sortir leur vérité et leur réalité, et ils le font. Ils ne viennent pas aux gens avec leur véritable visage. Comme certains disent, le Khawarij, les premiers, étaient clairs. Le prophète les a appelés les chiens de l'enfer. Ce sont des égarés. Certains savants les considèrent comme des mécréants. Mais ils étaient clairs. Ils disaient clairement leur position, ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, ce sont des khawarij mélangés avec du chiisme. Ce sont des khawarij d'un côté, et de l'autre côté, ils appliquent les méthodes des chiites, at-taqiyya. Ils essaient de venir comme ça, en cachant des choses. Si quelqu'un les dévoile, ils vont démentir. Et un beau jour, lorsqu'il n'y a plus rien à cacher, ils disent clairement, et là les gens disent, ah ben il avait raison l'autre tel jour, c'est trop tard. Le dégât, il a été fait. Regardez. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, il a parlé de ce qu'il a vu de lui-même, de par son expérience dans sa vie, que chez les frères musulmans, ils n'ont pas un attachement à la sunnah. Certains parmi eux sont même connus pour combattre la sunna. Et il a donné l'exemple de la barbe, qui ne la porte pas. On lui a dit, mais les frères musulmans au Yémen, ils portent la barbe. Alors regardez le alim comment il répond. Subhanallah. Il a dit oui, parce que chez eux, de coutume, un homme, il laisse pousser sa barbe. Il n'a aucun problème avec la barbe. Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'enlever. On lui a dit, mais il y en a d'autres, dans d'autres pays, il laisse la barbe. Il a dit oui, il laisse. Mais il la laisse comme Hassan al-Banna, il l'a laissé. Subhanallah. Ils veulent ressembler à leur leader. Pas au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'ils ont des barbes taillées, soi-disant bien présentables. Bien que ces phrases-là, elles ne veulent rien dire. D'un peuple à un peuple, ce qui est présentable chez les uns n'est pas présentable chez les autres. Et la sunna du prophète, c'est elle qui est vraiment présentable. Subhanallah. Donc, ils la portent comme qui ? Comme leur fondateur. Ils veulent lui ressembler. Ils veulent lui ressembler. والمقصود بهذه الشهادة et ce qui est voulu par cette attestation أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده لا يستحق سواه منها شيئا c'est que toutes les adorations sous toutes leurs formes est un droit exclusif réservé seulement à Allah l'unique, le seul. Personne en dehors de lui n'est en droit d'en recevoir une quelconque adoration. La malakun muqarrab, wa la nabiyun mursal, wa la rajulun salih, wa la hajarun, wa la chajarun, wa la shamsun, wa la qamar. Personne, qui que ce soit, ou quoi que ce soit, que ce soit une personne ou une chose, n'est en droit de recevoir une quelconque adoration. Même pas les meilleures des créatures au ciel. Même pas un ange rapproché. Même pas les meilleures des créatures sur terre. Même pas un prophète envoyé. Même pas un homme vertueux, un saint homme, un homme pieux. Même pas la pierre, ni les arbres, ni le soleil, ni la lune. Rien n'est en droit de recevoir une quelconque adoration si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est son droit exclusif. فَلَا يُدْعَى إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ Et donc, de ce fait, on n'invoque que Allah. On ne supplie que Allah. On ne demande qu'à Allah. وَلَا يُسْتَغَاثُ إِلَّا بِهِ Et on ne cherche de secours qu'auprès de lui. وَلَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ Et l'aide, on ne la recherche qu'auprès de lui. وَلَا يُتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ Et le refuge, on ne le recherche qu'auprès de lui. وَلَا يُخَافُ وَيُرْجَى إِلَّا هُ Et on a de peur, de crainte et d'espoir qu'en lui, Subhanahu wa ta'ala. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك بالله. Donc celui qui viendrait à détourner une de ses adorations pour autre que Allah, il sera tombé dans l'association et le polythéisme. Il aura commis le polythéisme. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dans le sens du verset, car certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Et il aura comme demeure le feu de l'enfer. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Personne pour les aider ni les secourir. ni leur venir en aide. C'est fini pour eux. Les injustes. Parce que l'associateur est un injuste. Il a commis la plus grande injustice. Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Luqman alayhi salam, il dit, ô mon enfant, n'associe pas à Allah, car l'association, le polythéisme, est une grande injustice. وليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ولا بد من استكمال شروطها. Et de par cette formulation la ilaha illallah, cette attestation, cette profession de foi, ce qui est voulu, ce n'est pas seulement de la prononcer avec la langue, mais il faut obligatoirement connaître son sens et la pratiquer, appliquer ce qu'elle demande, et aussi d'atteindre d'atteindre ses conditions, d'appliquer tout ce qu'elle demande, cette parole, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'ordonne. Tablir, comment ils expliquent la ilaha illallah? Je ne parle pas de certains qui s'amusent avec la religion. Ils viennent pour te dire, il faut que j'apprenne le sens de la ilaha illallah, comme Ahl al-Sunnah ils le disent. Pour quelle raison? J'en ai marre. À chaque fois que je suis en khuruj, on me bloque avec cette question, que veut dire la ilaha illallah, et je ne sais pas répondre. A'udhu billah. Vous avez vu l'intention, comme elle est mauvaise? C'est seulement pour ça que tu veux apprendre la signification de la ilaha illallah. C'est pour que tu puisses répondre à des questions. Allahul Musta'an. Ça, c'est arrivé, que des gens parlent comme ça. Donc, eux, ils disent quoi? Oui, la ilaha illallah, car il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. C'est Allah qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui donne la vie, qui donne la mort. Tayyib. Quelle est la différence entre toi et Abu Lahab et Abu Jahl? Tu crois qu'Abu Lahab et Abu Jahl ne savaient pas qu'Allah il existait? Tu penses qu'Abu Lahab et Abu Jahl ne savaient pas qu'Allah il était le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à donner la vie et la mort? Ah, tu crois qu'Abu Jahl et Abu Lahab pensaient que c'était les statues qui donnaient la vie et la mort et qui donnaient à manger et à boire? Non. Cette partie, catégorie du monothéisme, ils l'avaient. Et en règle générale, d'humanité, ils l'ont. De par leur fitra. Rares sont les quelques personnes qui ont renié l'existence d'Allah et la seigneurie d'Allah. Les prophètes, s'ils avaient appelé à cela, il n'y aurait eu aucun problème, ni conflit, ni guerre entre les croyants et les mécréants, entre les prophètes et leur peuple. Il n'y aurait jamais eu de problème. Ils auraient été d'accord. Où est-ce qu'il était le problème? C'est dans la divinité, dans l'adoration. C'est qu'ils se permettaient d'adorer autre que Allah, de vouer des cultes à autre que Allah, de donner le droit d'Allah à des créatures qui n'ont pas ce droit-là, qui est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils te disent, voilà ce que veut dire la ilaha illallah. Wal'iyadu billah. Ils ne savent même pas la signification de la ilaha illallah. En arabe, la, une particule de négation. La tout seul, ça veut dire non. La en début de phrase, elle la met à la forme négative. Ilaha. Ilaha, c'est la divinité. C'est celui qui est adoré. Celui à qui on voue un culte. Et tout celui à qui on voue un culte, on lui donne une adoration, il devient ilah. Et c'est pour cela que les statues, on les appelle ilah. Et le pluriel, c'est aliha. Pourquoi? Parce qu'on les adore. Et le fait de les adorer fait d'eux des divinités. La ilaha, une négation. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a personne qui est en droit de recevoir une adoration. Personne ne mérite l'adoration. Donc, quand tu dis la ilaha illallah, le premier point que tu cites, c'est une négation. Donc, tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illa, particule d'exception. Exception faite à Allah. Sauf seulement Allah, le seul qui est en droit d'être adoré. Donc, c'est une affirmation. Donc, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils prononcent. Ici, il est parlé de la divinité. Al-ilah de alaha ya'lahu ilahatan. Abada ya'budu ibadatan. C'est l'adoration. C'est pour ça qu'on l'appelle tawhid al-uluhiyya et on l'appelle aussi tawhid al-ibada. Car le premier tawhid al-rububiyya concerne les actes d'Allah. Allah, tout ce qu'il fait, il est l'unique, le seul à les faire. Il n'a aucun associé. Il donne la vie, il donne la mort, à lui appartient le jugement, c'est lui qui a créé toute chose, c'est lui qui pourvoit. Allah, il est l'unique et le seul. Tawhid al-uluhiyya, c'est les actions des serviteurs, des adorateurs. Les adorations qu'ils accomplissent, ils les font seulement pour Allah. Ils n'adorent qu'Allah seul, sans rien lui associer. Subhanahu wa ta'ala. وَشُرُوطُهَا سَبْعَةً Et les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de sept. Les ulama de la sunna qui ont la connaissance du livre et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam regardent tout ce qui découle des textes et en étudiant les textes religieux ils ont vu que il y a les sept conditions de la ilaha illallah. C'est comme par exemple lorsqu'on vous dit les conditions des ablutions sont au nombre de, les obligations de la prière sont au nombre de. Ces chiffres en eux-mêmes n'ont pas été dits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama, en étudiant tous les textes, en amassant les textes d'un même sujet, ils voient, puis après, ils n'ont plus qu'à compter et ils nous donnent le nombre. Comprenez ? Bien que le nombre en lui-même n'a pas été cité à l'époque du prophète sallam. C'est pour faciliter. Avec les générations, les gens ont besoin qu'on leur facilite. C'est une façon de leur faciliter. Al-awwal al-ilmu al-munafi lil-jahl. Donc, la première condition, c'est la science, la connaissance, qui est le contraire de l'ignorance. الثاني اليقين المنافي للشك. Deuxième condition, c'est la certitude, qui est le contraire du doute. الثالث القبول المنافي للرد. Donc troisièmement, l'acceptation, qui est le contraire du refus, du rejet. Al-Rabi' al-Inqiyad al-Munafi lit-Tark. C'est de s'y plier, de s'y soumettre, qui est le contraire du délaissement. Al-Khamis al-Ikhlas al-Munafi lish-Shirk. Cinquièmement, la sincérité, qui est le contraire du polythéisme. Al-Sadis al-Sidq al-Munafi lil-Kadhib. Sixièmement, la véracité, d'être véridique, contraire du mensonge. Al-Sabi' al-Mahabba المنافية لضدها. L'amour. Septièmement, c'est l'amour qui est le contraire de son opposé, le détestement. والمقصود بشهادتي أن محمدا رسول الله. Ce qui est voulu par l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. معرفة معناها والعمل بمقتضاها. De connaître le sens de cette attestation, Mohammed Rasulullah, et d'appliquer ce qu'elle implique. فليس المراد أيضا مجرد التلفظ بها. Donc ce qui est voulu par cette attestation, ce n'est pas seulement de la prononcer. Combien de gens les voient? C'est qui le prophète? C'est Mohammed Rasulullah. Ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Allahu al-musta'an. Cette parole, elle implique que tu te dois de respecter certains points, d'appliquer des choses, de te comporter d'une certaine manière face. فَهِيَ تَعْنِي تَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرُ. De reconnaître, d'affirmer, de confirmer ce qu'il dit, tout ce qui nous informe. Tout ce qu'il nous dit est une vérité. Alayhi salatu wa salam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ. Dans le sens du verset, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes il m'a été donné le Coran et son égal, son semblable avec. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est au même stade que le Coran. Ils vont ensemble. Jamais ils ne doivent être séparés. تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِي لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai laissé entre vous deux choses. Jamais vous ne serez égarés tant que vous y attachez. Le livre d'Allah et ma sunnah. Et jamais ils ne seront séparés jusqu'à qu'ils soient tous les deux présentés à moi devant Al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et combien, au fil des temps, ont essayé de séparer le Coran de la Sunna, soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte, en essayant de dire que la Sunna, il y a du mélange dedans, il y a du vrai, du faux, il y a les hadiths sahih, da'if, maudour, c'est très dur. Les ulama parfois ils ne sont pas d'accord, et ainsi de suite. Plein de phrases qui ne servent en réalité qu'à enlever la place de la sunna. Mais là où c'est sûr, il n'y a aucun doute dessus, c'est le Coran. C'est une façon de faire pour détourner les gens de la sunna et de se contenter du Coran. Ou alors, parmi les méthodes de dire, normalement, si on cherche une réponse, on la cherche dans le Coran. Si on ne la trouve pas dans le Coran, après on va chercher dans la sunna. Non. On cherche dans le Coran et la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Retournons-les à Allah et à son messager. Subhanallah. On doit le retourner au livre d'Allah et à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et certains se permettent même de dire non, la sunna a sa place, mais ma raison, c'est la balance pour juger les textes. J'accepte et je refuse selon mon raisonnement. Donc, il se permet de dire, non, c'est pas possible. C'est normal que les gens ne rentrent pas dans l'islam. Si on leur cite des hadiths comme ça, ça ne rentre pas dans leur raisonnement ni la logique, donc ça va être rejeté. Donc, non, non, on n'accepte pas ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'une mouche, elle tombe dans le récipient, le verre de l'un d'entre vous, où il y a de l'eau, par exemple. Tu ne sais pas si les deux ailes, elles ont été trempées dans l'eau. Eh bien, alors tu prends la mouche, tu la trempes dans l'eau. Pourquoi ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit parce qu'une aile, elle a le poison, et l'autre aile, elle a le remède. On te voit toujours des petits malins. Oh, moi, j'ai une meilleure idée. Je renverse l'eau, puis je remets un verre d'eau tout propre. Hein, toujours les gens là qui croient, ils se croient malins. On n'agit pas ainsi avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le dit à un moment où personne ne sait ces choses-là. Subhanallah. C'est un miracle de parler de choses que personne ne connaît. Subhanallah. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'informe, qui est le créateur. C'est lui qui a créé la mouche. Et Allah, il sait ce qu'il crée. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains disent non, si on raconte ça devant certaines personnes, c'est normal que les gens aient fui l'islam. Et ils croient qu'ils font du bien en agissant ainsi. Ils croient que c'est pour une raison noble. C'est pour le bien de l'islam. Wallahu al-musta'an. Certains même le disent clairement. Mohamed al-Ghazali, qui est une des grandes références chez les Ikhwan, il le disait clairement. Il disait, il l'a écrit. Il l'a écrit. Je me sers de hadith connus pour être faibles ou rejetés chez les ulama du hadith, mais c'est conforme avec mon raisonnement. Et je refuse des hadiths qui sont même dans le Bukhari et Muslim, authentiques chez les ulama du hadith, mais qui contredisent mon raisonnement. Wal'iyadu billah. Que dire d'une secte qu'on a appelée Al-Qur'aniyoun? Des gens, ils ont dit, nous, on n'en veut pas de la sunna. Nous, c'est que le Qur'an. Mais en réalité, au final, il n'y a ni Qur'an, ni sunna. Parce que le Qur'an te demande de revenir au prophète. Et la sunna, elle est là pour clarifier, expliquer, détailler le Qur'an. Et tu ne peux appliquer le Qur'an sans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que des ulama de la sunna ont écrit là-dessus la place de la sunna dans l'islam. Manzilatu sunna fil islam. Pour clarifier cette question et montrer la véritable position d'Ahl sunna là-dessus. فَهِيَ تَعْنِي تَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرُ. Donc d'affirmer, reconnaître, confirmer ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, car il est le véridique qui parle avec la vérité. وَطَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرُ. Et de lui obéir lorsqu'il a ordonné. Voilà. Le prophète a ordonné, on obéit. Il n'y a pas avant d'obéir, il faut que je vérifie. Est-ce que cet ordre, il en découle une obligation ou un acte recommandé et ainsi de suite? Non. Comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, la bonne éducation, c'est que lorsqu'il y a l'ordre, tu t'y plies, tu t'y soumets. Puis après, tu apprendras est-ce que c'est une obligation ou seulement un acte recommandé. Mais que tu te retiens de te soumettre, de te plier à l'ordre du prophète en attendant de savoir est-ce que c'est une obligation ou pas? Wallahi, ça, les gens qui parlent comme ça, ils ne le font même pas avec leur entourage, ni avec leurs élites, ni avec leurs chefs. Vous avez déjà vu quelqu'un? Tu dois aller garder la porte. Et il ne bouge pas de sa place. Je t'ai donné un ordre. Ah, mais moi, je ne sais pas si c'est obligatoire ou recommandé. Ça n'existe pas, subhanallah. Mais dans l'islam, dans la religion, regardez comment les gens, ils se comportent. On ne leur a pas appris le comportement à avoir face au Coran, face à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une éducation. واجتناب ما نهى عنه وزجر. Et de s'abstenir, s'éloigner de ce qui nous a interdit. وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى ولا بالابتداع. Et d'adorer Allah comme il a légiféré dans la tradition de ce noble prophète, honorable prophète, et non pas d'adorer Allah sous l'effet de la passion ni par des innovations. Ça rentre dans Muhammad Rasulullah. Et que dire lorsque vous avez des gens qui vous disent « On est convaincu que telle adoration, le prophète ne l'a jamais fait. Mais nous, on l'a fait. » Mais nous, on l'a fait. Comme ça. Clair et net. On ne peut pas être plus clair. Ça veut dire, ne te fatigue pas à me prouver qu'elle n'existe pas, cette adoration. J'en suis convaincu. Elle n'existe pas. Mais moi, je la fais. Parce que c'est une bonne innovation. Ils inventent des règles pour pouvoir faire passer leurs innovations et leurs idées fausses. Et Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, il a une très belle parole là-dessus. Il dit, les règles, les bases qu'on vous cite, qui sont plus ou moins connues ou célèbres, elles sont acceptées en islam tant qu'elles ne contredisent pas l'islam. Si la règle, elle contredit l'islam, elle n'est plus acceptée. Quelle que soit la personne qui l'a émise. Donc, il y a la bid'a hasana. Et ils vont se fatiguer à vous prouver qu'il y a la bid'a hasana. Pour qu'au final, à chaque fois qu'une action, on ne la retrouve pas dans la sunna, on n'a plus qu'à dire c'est une bid'a hasana. Wallahiyadu billah. Alors que le prophète, il a été bien explicite. Il a dit « Kullu bid'atin dalala ». Toute innovation est un égarement. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ala kulli muslimin ma'rifatu ma'na shahadatayn. Donc tout musulman se doit de connaître la signification des deux témoignages. Haqq al-fahm. Et bien les comprendre comme il se le doit. Wal 'amal al-jadd bi muqtadahuma. Et d'appliquer ce qu'elles impliquent. Wa huwa at-tasdiq wal iman wal 'amal bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil kitab wa sunnah. Et c'est le fait de reconnaître, de confirmer, d'avoir la foi et la pratique de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve dans le livre et la sunna. Wa ma yata'allaq bil 'aqa'id وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. Et tout ce qui concerne les sujets dogmatiques, la croyance, les adorations et les lois dans tous les sujets de la vie. ما يستفاد من الحديث. Les leçons à retenir de ce hadith. أولا, premièrement, أن التوحيد هو أساس الإسلام. Le monothéisme, l'unicité d'Allah, c'est la base de l'islam. ثانيا, deuxièmement, أن أهم الأركان بعد التوحيد هو إقام الصلاة. Le pilier le plus important après le monothéisme, c'est de prier. La prière, la salat. ثالثا, أن أوجب أركان الإسلام بعد الصلاة هي الزكاة المفروضة وهي من حق المال. Troisièmement, que le pilier le plus obligatoire parmi les piliers de l'islam après la prière, la salat, c'est la zakat obligatoire. Et c'est un droit sur la richesse. Rabi'an, quatrièmement, أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وصرفها إما بنفسه أو نائبه أو نائبه. Et quatrièmement, le gouvernant, on vous a déjà expliqué le terme imam, et ici il est voulu l'autorité, le gouvernant, le chef d'État, l'autorité du pays, c'est lui qui est en droit de récupérer la zakat. Puis, après, soit il s'occupe lui-même de sa distribution, ou alors il délègue des personnes, ses suppléants, qui eux vont la distribuer. Khamisan, cinquièmement, c'est-à-dire que dans un pays musulman, si l'autorité du pays décide de s'occuper de la distribution de la zakat et il envoie des fonctionnaires pour la ramasser, tu te dois de leur donner ta zakat. Que ce soit de l'argent, l'or, que ce soit la matière d'argent, que ce soit le bétail, que ce soit la récolte agricole, et ainsi de suite. Là où il y a de la zakat, dès qu'ils viennent, tu leur donnes. Sinon, tu t'en occupes toi-même de donner ta zakat. Khamisan, cinquièmement, wa fil hadith, دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. Dans le hadith, il y a une preuve qu'on peut sortir la zakat d'une seule catégorie. سادسا sixièmement, وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني. Et il y a aussi une preuve dans ce hadith qu'il n'est pas permis de donner la zakat à un riche. سابعا septièmement, وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال. Septièmement, et il y a une preuve dans le hadith qu'il est interdit à ce fonctionnaire qui vient récolter la zakat, de se servir des meilleures des richesses des gens, de ce qu'il y a de mieux, de plus cher. Par exemple, le bétail, il veut prendre les meilleurs des bêtes. Dans la récolte, il veut prendre les meilleurs de ce qu'il y a dans la récolte. Ça, ça lui est interdit. Thaminen, huitièmement. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. Il y a une remarque importante dans ce hadith, dans laquelle il y a une mise en garde contre toutes les formes d'injustice et d'oppression. Tasi'an, neuvièmement, wa fihi qabul khabar al-wahid al-adl fi al-aqida wa ma yujib al-amal. Et dans ce hadith, il y a une preuve d'accepter l'information d'une seule personne honnête, sûre, digne, que ce soit dans le domaine du dogme, de la croyance, et dans les domaines des actions, de la pratique. Et là, il y a une réponse à ceux qui disent que dans le domaine de l'aqida, on ne prend que les hadiths mutawatir, que les hadiths rapportés par plusieurs compagnons. Mais si c'est un hadith rapporté par un seul compagnon, on ne peut pas l'accepter. On ne l'accepte que dans la pratique, dans les adorations. Mais dans la croyance, ça demande un grand nombre de personnes qui le rapportent. Et ce hadith-là, il répond à cette ambiguïté. Pourquoi ? Parce que le prophète sallam a envoyé un seul homme, Mu'adh ibn Jabal. Et il lui a demandé de les inviter, appeler à la aqida, à la croyance, d'attester de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, la salat, la zakat. Donc, si un homme, l'information dans le domaine du dogme n'est pas acceptée, jamais le prophète ne l'a envoyé qu'un seul homme. Il a envoyé Mu'adh et derrière lui, un bon nombre de personnes pour confirmer la parole de Mu'adh. Mais ça, c'est une règle qui n'existe pas. Parmi les règles inventées et qui sont contraires à l'islam authentique. Et des ulama ont écrit aussi là-dessus que l'aqida, on prend aussi hadith al-ahad. Et il est dit qu'un professeur ou un prêcheur, il est parti, si je ne me trompe pas, au Japon. Et il leur a prêché l'islam. Il y avait un bon nombre de personnes autour de lui. Puis il leur a ramené cette règle. Il a dit dans le domaine de l'aqida, on ne prend pas hadith al-ahad. On prend que hadith al-mutawatir, rapporté par plusieurs personnes. Ils l'ont écouté avec concentration. Quand il a terminé, ils lui ont dit, on ne peut pas croire en ce que tu nous appelles. Pourquoi ? Parce que tu es tout seul. Reviens avec un grand nombre de personnes et on croira à ce à quoi tu as appelé. Il s'est mis dans le pétrin tout seul. Allahu al-musta'an. Ashiran wa fihi an yabda'a ad-da'i bil aham fal aham. Dixièmement, et parmi les leçons de ce hadith, il y a que le prêcheur, il doit commencer dans son prêche par le plus important au plus important. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Voilà. Non, le plus important ou plus important? Le plus important, c'est le plus important. Tawhid, c'est plus important que tout. Après la salat, elle est plus importante que la zakat. Et ainsi de suite. Tout le temps, la chose, elle est plus importante que quelque chose. Voilà. Tu as compris? Voilà.